C'est bon à savoir, 9h-11h sur Guadeloupe Première.
Bienvenue dans le forum de C'est bon à savoir. Aujourd'hui, c'est un mardi psy, vous le savez. On reçoit aujourd'hui notre docteur en sciences humaines et psychanalyste, hein, qui est Hélène Migerel. Et on commence tout de suite, on va parler d'un thème, d'une thématique qui est assez lourde et grave. On parle du retentissement psychosocial de la drépanocytose. Alors, est-ce que vous connaissez, vous, des personnes drépanocytaires? J'imagine que oui. Donc, quel est l'impact de cette maladie sur le quotidien? Arrivent ces personnes, est-ce qu'elles arrivent à entretenir les difficultés qui à faire face au niveau du travail, au niveau de la famille, à fonder leur foyer? Voilà, on essaiera d'en savoir un petit peu plus avec notre spécialiste. Merci beaucoup d'être là, en tout cas Hélène Migerel.
Bonjour Christine.
Bienvenue à vous.
Merci. C'est vrai que la drépanocytose touche essentiellement les pays d'Afrique. On a l'habitude de dire de l'Afrique noire, parce que c'est l'Afrique, je dirais, du Sud. Les pays aussi d'Afrique nord et puis les Antilles. C'est une maladie génétique. Ça veut dire qu'elle se transmet aux enfants. Alors, pour qu'il y ait vraiment un sujet, un enfant drépanocytaire avec le pôle le plus grave de la maladie, il faut que les deux parents soient quand même porteurs de ce gène. S'il y a un seul parent porteur du gène, il n'est pas obligatoire qu'un enfant puisse avoir en héritage la maladie. Alors, il y a des enfants aussi. Alors, SS, hein, le drépanocytaire SS, c'est quand même la forme aggravée de la maladie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui sont porteurs AS et qui ne développent pas la maladie. Mais ça, je ne veux pas m'étendre sur tout ce côté médical et biologique et physiologique de la maladie. Ça appartient, bien sûr, aux médecins de le faire. Mais ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est la réduction de la qualité de vie personnelle et sociale des personnes drépanocytaires. Retentissement psychosocial. Psycho, ça veut dire les choses personnelles, et social, l'environnement, l'entourage. Alors, bien sûr, on peut savoir, au moment de la prise de sang, quand les gens vont faire les examens prénuptiaux, au moment de la prise de sang, il y a un devoir du médecin référent, du médecin généraliste, d'alerter une personne qui n'est pas au courant, parce que les gens peuvent être porteurs de ce gène sans le savoir, qu'il n'y a pas automatiquement de retentissement. Mais il appartient d'abord au moment au médecin référent de le signaler et de conseiller les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier, non. Je veux dire qu'il y a des degrés divers. Je pense que les gens doivent tenter cette aventure, mais
avec précaution.
Ils doivent aller se renseigner au centre de drépanocytose intégré. C'est un des meilleurs centres de la Caraïbe.
Bien sûr.
C'est, oui, le centre de la Guadeloupe. C'est le docteur Marie-Étienne Julan qui en est le chef de service. Il y a un très bon accueil qui est fait aux gens. Il y a un site aussi qui est en voie de finition. Les gens peuvent aller sur le site parce qu'il y a quand même quelques petites informations qui sont dispensées. Et il faut que les gens se renseigne et ne panique pas, écoutez ce que dit l'expert de cette drépanocytose et faire en sorte ou d'éviter
ce qui n'est pas ce qui est très compliqué lorsqu'on parle de passion et d'amour, comment l'éviter,
voilà.
C'est vraiment
ou alors prendre certaines précautions. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire d'enfant, hein. Il y a un conseil génétique, un conseil scientifique et génétique qui peut dire aux gens dans quelles conditions ils peuvent faire des enfants. Alors c'est une maladie complexe, c'est une maladie très complexe parce qu'on ne la comprend pas toujours. Vous savez, ici il y a des représentations de la maladie. La représentation, c'est c'est l'image qu'on a des maladies ici. Ce sont souvent des maladies qui viennent de l'extérieur et non pas des maladies dont nous sommes porteurs nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, et la drépanocytose a comme corollaire cette représentation qui est tout à fait négative parce qu'un jour, les gens sont très bien, le lendemain, les gens n'en peuvent plus, sont absents et les gens sont dans une situation de souffrance. Alors, le symptôme le plus visible est le ressenti douloureux. Parce que dans cette maladie, la douleur pénètre par effraction à n'importe quel moment. C'est une maladie de l'hémoglobine, hein, c'est une maladie du sang. Et à n'importe quel moment, l'effraction de la douleur soumet le sujet drépanocytaire à quelque chose de l'ordre du désarroi. Et tout à l'heure, il est évoqué la dépression et certains sujets drépanocytaires iront jusqu'à la dépression parce qu'ils n'en peuvent plus. Une dévalorisation de soi, une maladie de l'idéalité, parce que dans la dépression, il y a aussi la maladie de l'idéalité, c'est-à-dire cette dévalorisation de soi qui imprègne l'individu. Alors d'abord, à l'école, on va commencer par le commencement. L'enfant drépanocytaire à l'école, il a du mal à jouer dans la cour de récréation avec les autres parce qu'il y a une fatigabilité. Hein, il s'essouffle, il a des articulations qui gonflent, par exemple, ses chevilles gonflent, et les autres ne comprennent pas qu'il a l'air en bonne santé et qu'il ne puisse pas assumer le jeu dans la récréation. Ou il est bousculé, ou il est mis à côté, ou lui-même, il s'isole. Ce qui lui donne vraiment un sentiment de dévalorisation. Ça commence à s'enquister, là.
Comment est-ce que lui-même, il se perçoit, cet enfant ?
Oui. Deuxièmement, il doit boire beaucoup. Et vous savez qu'à l'école, il est interdit de boire et de manger pendant les cours.
Hein. Bien sûr.
Si tout le monde se mettait à boire et à manger, ça ne pourrait pas aller. Et il doit boire. Et on lui dit, son médecin le lui dit, ses parents le lui disent, il n'ose pas dire. Alors, on peut éviter à cet enfant de se sentir différent si un parent vient dans la classe expliquer. Je pense qu'il doit y avoir une interconnexion entre l'école et la famille. Et dans ce cas-là particulièrement, il faut négocier, il faudrait que les parents négocient leur venue à l'école pour expliquer à la classe que l'enfant est malade et comment se présente cette maladie. À ce moment-là, quand c'est fait, il y a, parce que les enfants sont cruels entre
eux. Bien sûr.
Vous savez,
est-ce qu'on fait ça dès la rentrée ?
Polymorphes, ils sont cruels entre eux, mais à partir du moment où on leur explique les choses, ils vont super protéger leurs petits camarades. À la limite, ils vont jouer avec lui dans la mesure du possible, mais le sentant fatigué, ils vont se retirer eux-mêmes, ils ne vont pas l'oublier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Souvent, les parents eux-mêmes, parce qu'ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables d'avoir transmis. Et je dis bien que la maladie, ça ne s'achète pas. Si on pouvait faire autrement, tout le monde aurait fait autrement.
Hein,
on est porteur de gènes à son corps défendant. Il faut pouvoir assumer à un certain moment. Mais les parents eux-mêmes se sentent coupables et ne veulent pas s'avancer en disant « Oui, on va dire qu'il est malade. » Et alors, c'est une maladie. C'est une maladie, il faut l'accepter en tant que tel. Alors, deuxième chose, hein, quand on tombe amoureux.
Oh, c'est très dur, ça.
Quand on tombe amoureux, parce qu'on commence à grandir, on a des désirs comme les autres.
Je vous propose, Hélène Migerel, qu'on parle de justement cette étape de l'amour. Juste après, on écoutera un titre. Hein. On fait une petite balade musicale et on se retrouve juste après.
Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas.
baila pa' mi gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
a ella le gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
baila pa' mi gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
a ella le gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo.
Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami, wavy, así o que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila pa' mi gusta. A ella le gusta.
Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas.
Baila pa' mi gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila le gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila pa' mi gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Baila le gusta.
Vente conmigo.
Así me gusta.
Sola conmigo.
Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami, wavy, así o que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Voy a coger provecho.
A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila pa' mi gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta.
Tu fais ça pour moi, une fois, une fois.
Qui m'a dit? Une fois, une fois. Et non, et non, et non, petit garçon. Tournez longueur 7 fois dans Bouchard avant au palais. Et d'ailleurs, pour yon, coûtez Belle Parole Créole et Benzo.
Retrouvez Belle Parole Créole et puis Benzo du lundi au vendredi, 7h40 et 12h20 sur Guadeloupe Première. Joue à Tradition. La ville de Bémao et Guadeloupe Première présente Joue à Tradition 2016. Joue à Tradition, c'est le plus grand marché de Noël de la Caraïbe. C'est Tradition Pays Guadeloupe, semblé si 15 000 mètres carrés. Kenny Tambou, défilé costumes traditionnels, Jepou Timoun et Grand Moun, Zoké trouvé toute production à Pays Guadeloupe. Joue de la Kibout avait une grande soirée Goka. Joue à Tradition, c'est le dimanche 18 décembre au parc d'activités de Jarry avec la ville de Bémao et Guadeloupe Première au cœur de vos plus beaux événements.
Quand j'écoute le Bika Kelti, même sur des sujets sur lesquels je pensais déjà être au point, je me rends compte qu'il y a encore des choses à apprendre et j'en apprends. Et ça, ça fait super plaisir.
Les jeudis soirs, si on veut savoir qu'à passer un pays là, on va écouter Bika Kelti.
Yes, yes, Caribbean people, le Bika Kelti, the place to be.
Là, on va écouter Bika Kelti, l'esprit a ouvert, on va voyager. Bika Kelti, c'est son richesse et il faut continuer d'avoir nos business.
Actualité culturelle à pays là, c'est la Sakabay.
Le Bika Kelti, tous les jeudis 18h25 avec Christelle Martial sur Guadeloupe Première.
Vous êtes bien à l'écoute de Guadeloupe Première et vous êtes dans le forum de C'est bon à savoir. Aujourd'hui, c'est un mardi psy et on est avec Hélène Migerel, docteure en sciences humaines et psychanalyste. Elle est là aujourd'hui pour nous apporter donc justement ces informations sur le retentissement psychosocial de la drépanocytose. Et puis donc, Hélène, on commençait à parler justement de ces enfants lorsqu'ils rencontrent l'amour et la passion. Juste avant, on va faire juste une petite introduction. On va laisser intervenir notre auditeur. auditeur. Bonjour. Bonjour, vous êtes à José, vous êtes à l'antenne.
Oui, je suis à l'antenne.
Alors, José voulait faire une petite précision. On vous écoute, José.
Oui, je voulais poser une question à Mme Plabo. Bonjour à tous les auditeurs et à vous-même.
Merci.
Sachant si elle connaît l'origine de cette maladie, on sait que c'est d'Afrique, mais une précision, sachant que c'est un métier maladien. Cette pathologie, en fait, développée par une génétique, c'est sûr, pour résister au paludisme. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est au courant, Mme Michel? Et deux, c'est conseillé de faire du sport, puisque dans la famille, on a des personnes qui ont AF et qui ont un haut niveau de sport, de haut niveau, pour dire, mais bon, mm-hmm. le football. Est-ce que c'est conseillé le sport à ce moment-là? Et même du sport comme les cinq tibétaines, du yoga pour éventuellement éviter la douleur, comme on dit.
Très bien. En fait, José, on va y venir. On vous remercie beaucoup de votre intervention et on vous garde à l'écoute. Vous êtes avec nous, on vous retrouve tout à l'heure. Merci.
D'accord.
Merci de cette intervention. Donc, José, justement, qui s'intéresse aux effets du sport donc sur la maladie, sur la drépanocytose, et qui souhaitait nous préciser que c'était bien une déviance du paludisme, des suites du paludisme. Donc, on parlait d'amour. Lorsque ces jeunes gens touchés, hélas, par la drépa, se retrouvent à faire face à, justement, quelqu'un qui était également AS.
Oui.
La Nigerelle.
Oui, mais on ne le sait pas forcément. Hein. Je veux dire que quand on est amoureux, on ne le sait pas. On découvre.
Et même si on le sait vraiment, est-ce que vraiment on a un recours face à ça?
Ben, je pense que je vais laisser ça aux spécialistes de la drépanocytose. Et on ne demande pas à quelqu'un tout de suite ses analyses de sang quand on le connaît.
C'est sûr.
Hein, surtout quand on est, vous savez que le corps commence à être en fait et il est imprégné de désir à partir de 15, 16 et 17 ans. C'est l'âge du premier acte sexuel, du premier rapport sexuel. Donc on ne demande pas aux gens, comme on ne demande pas non plus aux gens, de vous présenter son analyse de sang, disons qu'il n'a pas le sida.
Bien sûr.
Dire que c'est une histoire de confiance. Quand on peut en parler.
C'est ça.
Quand on peut en parler. Mais là, la personne drépanocytaire, la personne qui a la drépanocytose comme maladie, va aimer. C'est un amoureux, mm-hmm. comme tout autre amoureux. Il ou elle est semblable à tout amoureux. Mais il faut à ce moment-là se raconter. Quand on rencontre quelqu'un, on se raconte. Mais comment le dire? Quoi dire? Comment le dire? Est-ce que l'être aimé est disposé à entendre ce qu'on peut dire? Comment l'être aimé réagira à ce qu'on pourra dire? Alors, annoncer sa maladie, c'est prendre le risque de l'incompréhension, de la pitié, ou alors de la fuite, mmh. ou encore de la preuve d'amour inespéré. Mais même quand l'autre dit « mais ce n'est pas important, explique-moi », même quand celui qui est en face ou celle qui est en face le dit, il n'est pas sûr que le doute ne persiste en disant « mais sait-on jamais ?» Alors, il y a des malentendus et il y a un désarroi face à ces malentendus. Parce que quand quelqu'un dit « explique-moi ce que c'est », l'autre peut entendre « est-ce que c'est contagieux ?» Vous voyez, à deux niveaux de l'expression verbale et de l'écoute, il peut y avoir une dissension, une distance. Donc, automatiquement, les choses, les comportements sont basés sur les émotions. Et quelquefois, les gens préfèrent fuir plutôt que d'avouer. Alors, un amoureux transi ou une amoureuse transie ne comprend pas que ça marchait bien. On était bien ensemble et puis il ne donne plus signe de vie. Il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Pourquoi a-t-il appris, hormis ma parole, que mmh. j'étais malade? Pourquoi fuit-il? Et la souffrance est beaucoup plus grande. Alors ceux qui sont atteints de cette maladie, quelquefois, prennent la fuite. Eux, parce que pour eux, le dicton « quittons l'amour avant qu'il ne nous quitte », eh ben, va mettre un peu de baume sur leurs sentiments. Alors que ce n'est pas vrai. Il suffirait de pouvoir expliquer. Mais pour expliquer, il faudrait d'abord accepter sa maladie. Parce qu'en décrire les symptômes, c'est aussi dire à l'autre « écoute, quand ça surviendra, eh ben, il faudra m'aider ». En plus, quand quelqu'un est soigné, soigné parce qu'il y a des crises répétées, ce sont des crises douloureuses qui sont les plus perturbantes quand quelqu'un est soigné. Une crise peut se déclencher à n'importe quel moment. Cette personne ne peut pas s'éloigner trop loin de son hôpital de référence et de son lieu d'hospitalisation. En cas de crise, il faut réintégrer le service et à ce moment-là, avoir des antalgiques parce que la douleur est intolérable. Alors, si on ne dit pas sa maladie, est-ce qu'on peut partir un week-end, par exemple, à Saint-François, alors que son hospitalisation au CHU de Pointe-à-Pitre, parce que souvent ce sont des maladies qui sont chroniques et les personnes qui rentrent de façon répétée sont connues et effectivement, on les prend en charge tout de suite. Donc, aller dans un autre hôpital pour une crise douloureuse, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas encore à sa disposition son dossier médical qu'on peut emporter avec soi, on pourrait, je pense qu'on pourrait. Mais enfin, est-ce que les gens sont disposés à entendre sur le plan de la modernité qu'il faudrait lâcher certaines choses du secret et confier aux gens les choses qui leur appartiennent parce qu'aujourd'hui le corps d'un individu lui appartient, le corps d'un individu n'appartient pas au médical. Il faudrait quand même se déprendre de certaines attitudes. Donc, c'est difficile. Si on n'explique pas, c'est toujours difficile parce qu'une crise douloureuse en plein week-end amoureux, eh ben, à ce moment-là, il faudra expliquer dans la douleur et ce n'est pas si simple que ça. Et puis, le désir d'enfant. C'est un désir d'enfant. Les gens vont se poser la question de la transmission du gène. La transmission devient à ce moment-là quelque chose de l'ordre de la hantise. Alors, beaucoup de personnes qui ont pu être dépistées, parce que vous pouvez être atteint de drépanocytose sans le savoir.
Bien sûr, oui.
Il faut à ce moment-là un déclencheur physiologique qui va permettre au médecin référent de vous diriger vers le centre intégré de drépanocytose. Donc, les gens ne savent pas toujours qu'ils sont porteurs de la maladie. Le dépistage peut se faire dans ce centre intégré de la drépanocytose. Les gens, effectivement, peuvent se renseigner et faire un dépistage. Il vaut mieux prévenir qu'être dans une impasse par rapport à sa maladie.
Tout à fait. Hélène Migerel, on va juste faire une petite balade musicale. On se retrouve juste après. On continue justement d'en parler.
Guadeloupe Première.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial. Pour eux, je brillais avant les projecteurs. I love you, Comoria. I love you, Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Un titre de Soprano, Mon Everest en featuring avec Marina Case. Et on se retrouve après la promo. On ouvre le standard. Vous pouvez commencer à nous appeler au 05 90 96 6000 pour participer au forum à propos de la drépanocytose. Première.
Que s'est-il passé après ?
Dis-moi, je veux du bébé, je veux pas du papa.
Qu'avez-vous fait le lendemain ?
Le lendemain, entre la jaune, à bien l'enlever, à constater qu'il est enfermé.
Du lundi au vendredi, juste avant 6h, dans les matinales de Fabrice Fanfan sur Guadeloupe Première, Yasser fait le tour de la Guadeloupe des émotions dans Le Jour d'après.
Moi, c'était le cyclone Inès.
En tout pays, t'es qu'à son papa. Maman, moi, t'es instauré ça en casse nous.
Le Jour d'après, juste avant 6h sur Guadeloupe Première.
Zé, vous êtes dans l'émission !
Entre 16 et 18 heures, la Guadeloupe vit au rythme d'une radio.
Herman, est-il là avec nous?
Oui, nous sommes là.
Nous allons jouer les routes de Guadeloupe et nous allons jouer Aline. Voilà.
Il y a fait 10, Yoni a si on y chiffre.
C'est une émission, un rendez-vous incontournable sur Guadeloupe Première.
Zay! Avec
Caraïbes Import, toute la déco et plus encore.
Attention, Génération Watt débarque en Guadeloupe. Génération Watt, c'est la plus grande enquête participative jamais lancée au monde pour les 18-34 ans. Génération Watt, les Guadeloupéens d'ici ou de France hexagonale prennent la parole afin de réaliser l'autoportrait de leur génération. Génération Watt, emploi, mariage, futur, différence, droits des parents, au total 15 thématiques proposées pour vous permettre de vous exprimer librement. Si vous avez entre 18 et 34 ans, rendez-vous sur www.génération-watt.gp.
Eh bien bonjour la Guadeloupe.
Non, un pays là, l'émission pour mieux connaître notre patrimoine. Non, un pays là, avec Imouna en studio et Sylviane Mongis qui sillonne le pays pour vous faire entendre la Guadeloupe.
Eh bien là, je suis dans le non.
Non, un pays là, c'est aussi j'ai plaisir et amusement.
Est-ce qu'elles ont un proverbe qui n'y crabale?
C'est camarade qui fait chicabanité.
Ouais!
Non, un pays là, une émission d'utilité publique du lundi au vendredi de 11h à 13h sur Guadeloupe Première. Première.
Oh. Retour dans votre forum de C'est bon à savoir avec Hélène Migerel. On parle des retentissements psychosociaux, hein, de la drépanocytose. Et tout de suite, nous avons donc la possibilité d'avoir un auditeur qui souhaiterait réagir donc, sur le standard du 96-6000. Il est 10h40, vous écoutez bien Guadeloupe Première et on souhaite la bienvenue à Alexandre. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue. Oh Christine, madame, c'est trop d'honneur.
Christine, c'est ça ?
Christine, oui, c'est bien ça.
Christine, oui, bonjour Christine, bonjour madame Migerel.
Bonjour monsieur, à bientôt.
Et voilà, alors j'interviens en tant que patient de l'EPANO SS.
D'accord, vous êtes SS donc, ok.
Oui, voilà. Alors, c'est surtout pour témoigner, quand j'étais à l'école, c'était assez pénible.
Oui.
Parce que bon, les instituteurs ne savaient pas, et puis bon, on m'a pas fait de cadeau, quoi.
Ouais, ouais,
on m'a pas fait de cadeau. Et allez. Puis, à la mort de mon petit frère, qui était dépanneur aussi, puisque nous étions quatre garçons dépanneurs.
Ouais.
Et quand il est mort, le docteur Raton, bon, le docteur a envoyé un courrier pour le directeur, mm-hmm. pour nous déscolariser, mon frère et moi. Alors voilà, et puis depuis, nous sommes restés, bon, sans aller à l'école, quoi. Depuis la primaire.
On vous a déscolarisé, mais par ignorance de la maladie, en fait, c'est ça ?
Souvent, c'est-à-dire que bon, le docteur a pensé, avec cette maladie, après la mort de mon petit frère, que c'était trop pénible pour nous de pouvoir supporter l'école.
Ouais.
C'est vrai qu'on faisait environ, trois mois à l'école, et puis le reste, c'est surtout à l'hôpital qu'on le finissait.
Ah oui, c'est très dur.
Oui, voilà. Alors, ce qui fait que, bon... Après, c'est vrai que ça a été très, très, très embêtant de ne pas être à l'école, même si la moyenne n'était pas là, à mm-hmm. cause des absences.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que
vous êtes venu, ça
m'a manqué beaucoup de ne pas continuer ma scolarité. Quoi.
Bien sûr. Sans indiscrétion, vous avez quel âge, Alexandre ?
Pardon ?
Vous avez quel âge, sans indiscrétion ?
Aujourd'hui, j'ai 57 ans.
57 ans, très bien. Bah, écoutez,
dans les années 60. Et puis, c'était pas trop, trop, trop connu.
Ah ben, bah, presque pas du tout même. C'est vrai qu'on
oui, voilà, bien
vous, étiez,
sûr.
Vous étiez presque un cas d'école.
Oui, oui, voilà, bien sûr. Voilà.
Alors, Hélène Migerel, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai que les absences répétées des enfants à l'école sont très mal perçues. Premièrement, parce qu'on ne sait pas. Mmh. Souvent, hein, y a pas de certificat médical fourni. Deuxièmement, ça va influencer leur devenir. C'est-à-dire qu'ils seront tout le temps en train d'essayer de rattraper les cours mmh. qu'ils ont manqués, ce qui fait qu'ils devront se contenter de peu de choses pour leur futur professionnel. Ils seront limités, ils ne pourront pas, comme ils n'ont pas pu suivre de façon linéaire les oui, cours, oui. ils seront en marge un petit peu de la cour, enfin de l'école. Et c'est vrai aussi que cette dévalorisation va s'enquister à ce moment-là. Le regard des autres. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas déscolariser comme ça des enfants. Il y a des lois. Il y a des lois, mais c'est souvent la méconnaissance des parents et une espèce d'acceptation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'information. Et c'est pour ça. Et je dis aux médias, je ne cesse de dire aux médias, qu'il faut effectivement distiller une information de qualité pour que les personnes sachent. Ce n'est que comme ça qu'on sait, parce que nous ne sommes pas une société allant chercher dans les livres scientifiques.
Mmh, mmh.
Donc, c'est important. Et vous voyez, le monsieur qui parle aujourd'hui, il a 57 ans, il se rend compte qu'à un moment donné, sa vie intellectuelle a subi des limites. Il aurait pu aller plus loin, peut-être, que s'il y avait eu une compréhension et puis un environnement beaucoup plus adéquat.
Alexandre, pendant que vous êtes là, merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention.
Vous avez, merci,
déjà, vous avez déjà fait un beau chemin, 57 ans. Je voulais savoir si vous, aujourd'hui, vous avez réussi à pallier de votre côté et à trouver une activité professionnelle qui vous a permis de vous épanouir et de vous réaliser.
Bon, non, pas du tout, mais c'est vrai que souvent, on pense que que j'ai mon bac.
Oui.
Je discute avec des gens et ils pensent que j'ai mon bac parce que je me suis beaucoup inscrit.
Ah ben voilà, donc vous avez pallié, très bien.
Oui, 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 la télévision m'a apporté beaucoup aussi et j'ai fait beaucoup de choses.
Oui.
Et voilà, ça m'a beaucoup aidé.
Bah écoutez, on vous félicite, on vous remercie beaucoup de votre témoignage, on vous embrasse. Moi, je vous embrasse chaleureusement parce que je sais que cette maladie est très, très dure à affronter.
Je voulais simplement dire à l'équipe de Mme Charnot, à Basser, je les remercie beaucoup pour leur accueil parce que c'est vraiment un travail formidable qu'ils font sur Basser.
Très bien, le message est passé. Merci à vous en tout cas. À bientôt,
merci,
Alexandre.
À bientôt, au revoir.
Voilà, donc un très joli témoignage hein, de cet auditeur. Si vous aussi, vous voulez donc participer, intervenir sur l'antenne, hein, le standard, c'est le 0590-96-6000 Hélène Mijerel. On se retrouve tout de suite après une petite chanson, une petite balade musicale, que s'en pense Emilien. On y va, il est 10h45, vous écoutez bien Guadeloupe Première.
Première.
Guadeloupe Première.
être bien dans l'ambiance de Cassica, s'il y en a. Et on retrouve tout de suite le forum de C'est bon à savoir avec Hélène Migerel. Un forum aujourd'hui qui est dédié au retentissement psychosocial de la drépanocytose. Et on est en train justement de voir un nouveau volet. On a une intervention aussi d'une auditrice, hein, Hélène Migerel. Marianne est là, est à l'antenne. Elle souhaiterait donc participer. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Oui, je vous appelle parce que je suis la mère d'enfants drépanocytaires.
Oui.
Donc j'ai eu 4 enfants et j'ai eu 3 enfants qui font développer la maladie SC. Et le dernier qui porte.
D'accord.
Évidemment, moi, j'ai eu mes enfants très jeunes. C'était en 1967. J'étais très jeune. J'ai eu mon fils pour mes fils à 16 ans. Le dernier à 22 ans. Et on ne connaissait pas la maladie.
Oui.
Alors, c'est pour témoigner, pour voir comment les enfants, à l'école, ce n'est pas facile.
Alors, vos enfants, ils sont là? Ils sont...
Oui. Alors, j'ai perdu ma fille en 2007.
Oui.
À 35 ans.
Oui, oui.
Excusez-moi.
Non, non, il n'y a pas de souci, on comprend tout à fait.
Ben alors, j'ai encore mes deux premiers fils qui sont là, ils sont porteurs et malades.
D'accord.
Ils ont déjà subi plusieurs opérations.
Donc, ils se battent, oui.
Voilà, ils se battent. Ils sont, c'est pas facile pour eux, surtout moi, des crises. Et pour moi aussi. Parce que les enfants, on ne peut pas leur faire voir qu'on souffre.
Non, c'est compliqué, oui. Très bien.
C'est pas facile pour le comportement des gens au travail, même dans leur vie privée. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas qu'ils sont malades. Et bon, en tant que la mère, on connaît déjà la maladie.
Mm-hmm.
On essaie de les aider, de les supporter, de faire comprendre. Les gens pensent qu'on est là pour les gâter, pour pouvoir les faciliter la vie. C'est normal, ils sont malades.
Oui, mais il ne faut pas s'occuper vraiment du qu'en dira-t-on. Hein.
Non,
dans ces moments-là, on sait qu'on passe quelque chose de titanesque.
Mon fils est né maintenant à 49 ans.
Oui.
Et mon deuxième fils qui est malade à 45, c'est deux enfants dont j'ai élevé. C'était au moment du docteur Berchel qui m'a vraiment bien expliqué la maladie.
Oui.
Et qui m'a dit qu'il faut que les enfants puissent vivre normalement.
Oui.
Ne pas toujours vivre avec la maladie en leur faisant toujours. Pourquoi ils sont malades?
On les couvre trop.
On les hospitalise. On les garde pas trop longtemps parce que toute leur vie, ils vont le passer à l'hôpital. Et à ce moment-là, bon, ben, j'ai toujours essayé de faire comme s'ils n'étaient pas les élevés normalement, quoi.
Oui, oui, bien sûr.
Les enfants, pas malades. Évidemment, quand les crises sont là, on ne peut pas faire autrement. Mais je peux témoigner qu'à l'école, bon, ils ne connaissaient pas, parce que maintenant, on connaît la maladie. En 67, on ne connaissait pas. Les pédiatres, au début, donnaient toute espèce de médicaments. Ils pensaient que moi-même, je gâtais tout. Mais surtout mon fils aîné, hein, parce que. J'ai eu le deuxième et 4 ans après. Et il était tout le temps malade. Parce que maintenant, là, il ne peut plus travailler.
Oui.
Il a dû arrêter car il veut travailler. Et il n'est pas au compte. Mes enfants, ils ont suivi une scolarité quand même assez normale.
Classique. Jusqu'à quel âge à peu près?
Eh ben, mon fils aîné a été à l'université.
Ah, quoi, c'est super, bravo.
Et mes enfants ont tous été à l'université. J'ai mon deuxième fils qui est jockey professionnel.
Ah, monsieur, bravo.
Et qui, lui, il a... Mais ils sont vraiment courageux. Mon problème, c'est voir comment ils se battent et pour pouvoir supporter cette maladie. Et puis, là, bon, elle est là, on ne peut pas faire autrement. Mais bon, ils se sont beaucoup battus. Et puis, ils se battent encore. Parce que...
Et je pense que vous vous battez vraiment à leur côté et que c'est tout ça aussi qui fait qu'ils en sont arrivés jusque-là. Merci beaucoup, en tout cas. Et beau
Merci.
Bravo, un grand bravo, Marianne. Hein.
Merci à vous.
On vous embrasse.
Au revoir.
Merci. Allez, du courage.
Au revoir.
Oui, un témoignage poignant, hein, vraiment. Voilà, c'est la drépanocytose en même temps. Hein, bon, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je déplore le fait que ce soit une maladie qu'encore beaucoup d'antillais ne connaissent pas. Vraiment, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette émission.
C'est une maladie qui fait souffrir toute la famille.
Bien
en fait.
Sûr.
Toute
bien
la
sûr.
Famille, parce que les deux parents, quand les choses vont mal, se rejettent la faute. L'un l'autre. Et ça perturbe leur relation familiale et amoureuse. Deuxième chose, on pourrait penser que celui parce que, qui est porteur sain, le AS, ne souffre pas. Il en souffre. Et il souffre des fois beaucoup plus que celui qui est SS, parce que quand les crises douloureuses surviennent, les parents vont se concentrer, les deux parents vont se concentrer uniquement sur cet enfant qui est en état de souffrance. Mais la souffrance est très très difficile, elle est innommable, hein, s'agissant de la drépanocytose, ce qui fait que l'autre se sent en fait à part, isolé, comme n'ayant pas de famille. Il est obligé de chercher à l'extérieur un lien social qui puisse le réconforter et il se dit, bon, ce n'est pas possible, moi je ne suis pas l'enfant de ces parents-là. Deuxième chose, la relation avec l'enfant malade va aussi être quelque chose de très perturbant parce qu'il se sentira obligé de le surprotéger alors qu'il a envie aussi de lui dire « mais j'en ai marre, tu fais exprès quoi, d'être malade pour concentrer l'attention de tes parents sur toi ». Donc on voit bien que cette maladie, même quand elle est gérée, de façon convenable, aura des répercussions psychologiques sur l'ensemble de la famille. Et puis, bien sûr, les pères et les mères ont du mal à en parler, ont du mal à en parler avec leurs enfants, trop engoncés dans une espèce de responsabilité, alors que je viens de dire que la maladie ne s'achète pas, que c'est une maladie transmise, qu'elle est génétique et qu'on n'y peut rien en attendant de trouver une solution, c'est-à-dire cette solution du vaccin, les parents doivent effectivement affronter cette maladie avec tout le courage dont ils peuvent faire montre. Aujourd'hui, déjà, il y a une grande avancée parce que le dépistage néonatal est fait systématiquement quand un enfant naît. On va faire le dépistage pour informer les parents et leur dire ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait s'attendre avec cette maladie. Alors, c'était vrai ici et ça commence à s'étendre en Europe, c'est-à-dire que ce dépistage commence à s'étendre en Europe parce que avec les mariages, moi je ne parle pas de mariage mixte parce que tout mariage est mixte. Il faudra qu'on en parle aussi des mariages mixtes.
On fera une thématique sur les mariages mixtes.
À l'occasion, tout mariage est mixte, mais avec les mariages qui sont de plus en plus fréquents hors même de son groupe d'appartenance, et c'est une bonne chose. Autrement, on dégénérerait. Donc voilà, cette maladie doit être. Cette maladie doit nous alerter, et ça a la tête l'affaire de tous.
Exactement. Et Hélène Migerel, vous avez votre site internet, hein, www.hélènemigerel.com, sur lequel on peut donc avoir les informations, vous suivre un peu et puis savoir si on peut participer éventuellement à vos conférences. On vous remercie en tout cas énormément. On peut avoir des informations aussi sur votre réseau social qui annonce, hein, les événements, vos passages dans l'émission, c'est bon à savoir d'ailleurs. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos interventions de qualité et puis encore, je l'espère, hein, à très bientôt pour un Mardi Psy, pareil, mardi prochain. On se retrouve déjà pour un nouveau rendez-vous thématique. C'est bon à savoir, se termine déjà. Il est 10h58. Vous êtes sur Guadeloupe Première. On se retrouve nous dès demain pour un nouveau C'est bon à savoir. Et puis écoutez, je vous embrasse. Je vous fais un gros beau. Vraiment, si vous êtes concerné par la drépanocytose de près ou de loin, c'est un membre de la famille ou que ce soit vous même qui êtes porteur ou malade, je vous embrasse. Vraiment, je sais que cette maladie est très très compliquée à vivre. On a parlé des conséquences, des souffrances et tout ça. On ne peut pas l'oublier et on
Ce sera le thème de mardi prochain, on va continuer. Il faut continuer.
C'est important.
Parce que le volet profession n'a pas été abordé.
On parlera de la profession, donc dans le rebondissement psychosocial, dans le deuxième volet.
Mardi prochain.
Avec Hélène Migerel, un grand merci à vous. On vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve, nous, dès demain, dans C'est bon à savoir.